Bonjour Sybille et bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de féminisme. Alors, voyez-vous, en ce moment, ce sont des hommes, hein, fous furieux, qui mettent le Proche-Orient à feu et à sang et qui décident de jouer au Lego avec les vies humaines et des villes entières. Mais chez nous, dans un pays où les droits des femmes sont plutôt bien garantis, où les femmes ont le privilège de vivre en paix, de ne pas avoir des bombes qui tombent sur leur tête ou d'avoir un vieux barbu qui les force à se recouvrir d'un rideau, eh bien des femmes ont décidé de foutre en l'air ce privilège, parce qu'après tout, la paix, l'amour et la tolérance se sont devenues des notions superficielles, pour à leur tour mettre à feu et à sang nos valeurs universelles. Et je veux bien évidemment parler de ce qui s'est passé à la marche du 8 mars dernier. Des collectifs qui se disent féministes ont fait barrage au collectif de Nous Vivrons qui a été forcé de marcher sous escorte policière bien à l'écart du reste du cortège. Le tort de Nous Vivrons? Aucun. Seulement de dénoncer les viols commis par le Hamas le 7 octobre ainsi que les agressions subies par les juives partout dans le monde. Ce que leur reprochent ces collectifs? D'être des sionistes. Ce qui, en langage de tous ceux qui ont fait leur éducation sur TikTok ou sont allés à l'université de la France insoumise avec option intifada, être des suppôts de Satan à la solde de Netanyahou. Je ne sais pas ce qu'il va falloir de plus pour qu'enfin rentre dans leur crâne que le sionisme n'est rien d'autre que le mouvement d'autodétermination du peuple juif. Mais passons, parce que tout ceci est politique. Parce que parmi les collectifs qui ont bloqué Nous Vivrons, vous retrouverez Samy Doun, Urgence Palestine, Du Pain et des Roses, Nous Toutes, et les inénarrables idiots de Tzedek qui n'ont toujours pas compris que se ranger du côté de l'oppresseur, ça n'épargnera pas leur vie. En 1942, même les capots ont fini dans les camps. Alors ces collectifs n'ont jamais, à un seul instant, dénoncé les atrocités du 7 octobre et ont toujours défendu le Hamas comme la résistance palestinienne. Si on m'avait dit un jour qu'en France, en 2026, des gens qui prônent la violence pouvaient marcher en toute sécurité et voir leur discours être légitime, alors qu'à l'inverse, des gens qui promeuvent l'universalisme des droits devraient marcher sous protection policière, je ne l'aurais pas cru. Ce 8 mars, nous n'avons rien eu de féministe. Alors qu'est-ce que le féminisme déjà ? Le féminisme, c'est la conviction que tout le monde, indépendamment de son genre, devrait jouir de l'égalité des droits et des chances. C'est aussi simple que cela. Le principe fondamental du féminisme reste l'égalité, qu'importe d'où vous venez et quelles sont vos opinions. Pourtant, en ce 8 mars, dans cette journée qui était censée défendre les droits des femmes, j'ai vu des femmes appeler à restreindre les droits des femmes. Pire encore, dans une marche censée dénoncer les violences faites sur les femmes par des hommes, j'ai vu des femmes demander à des hommes notoirement violents à les s'opposer à d'autres femmes. C'est lunaire. Et j'en viens à me demander dans quel monde de privilégiés nous vivons. On est tous là à s'insurger parce que sous les talibans, les femmes n'ont pas la parole, parce qu'en Iran, elles risquent leur vie à cause d'un cheveu de travers, qu'au Congo ou au Soudan, elles finissent exploitées sexuellement parce qu'elles n'appartiennent pas aux bonnes ethnies. Mais nous, on estime que visiblement, on a peut-être trop de liberté pour en arriver sur un simple débat d'idées à vouloir restreindre ces libertés. Je ne veux plus jamais entendre une féministe de Nous Toutes me dire qu'elle est concernée par les droits des femmes afghanes alors qu'elle applique les mêmes principes de restriction de parole que les talibans. Alors quels sont les droits qui ont été bafoués ce jour-là? On a d'abord la liberté d'opinion, article 2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, et la liberté d'expression, article 19 de cette même déclaration, et article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, la CEDH. Chacun a le droit d'exprimer librement son opinion, qu'elle plaise ou non, du moment qu'elle ne porte pas atteinte aux droits des autres. On a aussi la liberté de pensée, de conscience et de religion, article 9 de la CEDH, qui implique que j'ai le droit de croire en mon judaïsme et de croire en mon sionisme sans en être inquiété. On a aussi la liberté d'expression, article 20 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et article 11 de la CEDH, ce qui implique le droit de choisir dans quelle association je souhaite m'engager et manifester si celle-ci est pacifique. Et que je sache, ce n'est pas nous vivrons, qui a employé des hommes pour aller taper sur d'autres manifestants. Alors vous allez me dire, est-ce qu'on a vraiment le droit, selon ces lois, de tout dire et de manifester comme on veut et avec qui on veut? Oui et non, il y a des restrictions. Selon la CEDH, un État peut parfaitement restreindre la liberté d'expression ou d'association si les discours tenus ou les actions de l'association remplissent trois conditions. 1. Il faut que cette restriction soit prévue par la loi, par exemple une loi qui interdit de promouvoir des discours racistes. 2. Il faut que la restriction soit nécessaire, ça veut dire qu'on n'a pas le choix. Et 3. Il faut que ça soit nécessaire pour protéger notamment la sécurité nationale ou la sécurité publique, la défense de l'ordre ou la prévention du crime ou la protection de la santé ou de la morale. Donc ça veut dire que Nous Vivrons aurait pu être interdit de marcher si on avait une loi qui interdisait les discours sionistes et la protection des femmes juives, ce qui n'est pas le cas. Et si Nous Vivrons portait atteinte à la sécurité nationale? En quoi réclamer des droits pour les juives est une atteinte à la sécurité d'autrui? À l'inverse, en quoi clamer l'intifada dans la rue, glorifier la résistance qui a tué des milliers de personnes et bloquer d'autres femmes en faisant usage de la violence, ce n'est pas une atteinte à la sécurité d'autrui? D'autant plus que ces collectifs n'avaient aucune légitimité à le faire. Il n'y a que l'État qui peut appliquer ces restrictions, et certainement pas un individu ou une association qui n'a aucun pouvoir ni autorité pour le faire. En revanche, ce qu'ont fait ces collectifs, c'est un délit. Et oui, l'article 431-1 du Code pénal dit que le fait d'entraver d'une manière concertée et à l'aide de menaces l'exercice de la liberté d'expression ou d'association ou de manifestation est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Et si ça a été fait avec des coups, de la violence ou des destructions, ça passe à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Et cette concertation préalable est très facile à prouver. On a des échanges et discussions qui ont été divulgués sur les réseaux sociaux, et on a aussi, parce que ces idiots ne se sont pas dit à un seul instant « Ah tiens, peut-être qu'on va être discret », des affiches qui ont été collées partout dans Paris et qui disaient « Bloquer les sionistes le 8 mars », avec le logo de toutes ces associations. Voilà, donc si vous faites partie d'un tel collectif, autant vous dire que ça sent pas bon pour vous. Mon petit conseil pour la prochaine fois, changez de nom. Ce 8 mars, ça a été ni nous, ni toutes. Juste vous et votre petit totalitarisme de la pensée.